un événement important doit être annoncé pour qu'on puisse être conscient qu'il arrive. L'éclipse, heureusement qu'elle était annoncée, parce que sinon, le temps de vous le réaliser, c'était déjà trop tard. Donc, à quelque part, on doit être informé précisément de ce qu'il faut faire, comment se préparer, prenez les lunettes, les bonnes lunettes, passez à la pharmacie, achetez-les, pas trop tard, parce qu'il n'y en aura plus. Enfin bref, il faut se préparer pour voir ça. Bon, ce n'est qu'une éclipse. Bon, moi je trouve ça assez banal, une éclipse. Parce qu'en fait, une éclipse, c'est quoi? C'est la disparition du soleil. Alors, ben voilà, mais enfin, ça ne se passe pas tout le temps. Donc, on veut voir ça. La venue de Jésus, c'est tout à fait autre chose. C'est l'anti-éclipse, si on peut dire. Ce n'est pas le soleil qui disparaît, c'est Dieu qui apparaît. C'est Dieu qui vient sur terre pour se révéler aux hommes. C'est le Créateur. Jésus, il a créé le monde et tout ce qui se trouve. Et il est venu sur terre. Mais quel événement! Mais c'est extraordinaire! Ça s'est passé une fois. Ça ne se reproduira plus. C'était unique. Et pour cet événement extraordinaire, il fallait un précurseur. Il fallait quelqu'un qui annonce sa venue, qui prépare les gens pour cela. Et cet homme, c'est Jean-Baptiste. Dans les évangiles, les quatre évangiles, le début du ministère se caractérise par le ministère de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, c'est un homme qu'on connaît en partie. On sait qu'il a été ou qu'il est le fils d'un sacrificateur, que sa naissance ou sa conception a été annoncée à son père alors qu'il se trouvait dans le temple de Jérusalem. Et donc, Jean-Baptiste va précéder Jésus. Et Jean-Baptiste, il est né 6 mois avant Jésus. Donc, il est l'aîné de Jésus de 6 mois. On le voit dans l'évangile de Luc, puisque au moment où Marie apprend qu'elle va porter un enfant, elle va se rendre auprès d'Élisabeth et que celle-ci est en train d'attendre la naissance de Jean-Baptiste. Alors voilà, il y a dans les récits, on a dans Matthieu, dans Luc, on a les récits de la Nativité qui nous dit ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, et puis après, plus rien. Oui, il y a encore un tout petit incident quand Jésus a 12 ans, mais c'est juste dans Luc qu'on nous dit ce qui s'est passé. Et après, plus rien. On attend que Jean-Baptiste commence. Et Jean-Baptiste commence son ministère quand il a 30 ans. Alors, ce n'est pas dit directement, mais quand même, c'est logique, c'est à 30 ans, puisque Jésus, quand il est baptisé, il a environ 30 ans. Donc, Jean-Baptiste commence à 30 ans. Pourquoi 30 ans? Quand vous savez que vous avez une tâche extraordinaire à accomplir, ben, n'attendez pas 30 ans. Quand vous avez 18 ans, peut-être même déjà avant, allez-y, allez frapper à la porte de votre voisin, parler de Jésus-Christ. Pourquoi attendre 30 ans? Il faut savoir que les sacrificateurs commençaient leur ministère à 30 ans. Ils exerçaient leur ministère de 30 à 50 ans. Ils avaient une tranche de 20 ans pendant laquelle ils étaient actifs. Ils étaient au temple, ils offraient des sacrifices, ils performaient différents actes rituels. Et donc Jean-Baptiste va attendre l'âge permis pour commencer son ministère. Mais il ne va pas aller au temple pour offrir des sacrifices, il va aller dans le désert et proclamer la repentance, la venue de Jésus-Christ et la repentance. Alors c'est un endroit assez particulier. Pour annoncer un événement extraordinaire, c'est d'aller dans le désert, au bord du Jourdain, pour annoncer la venue de Jésus. Alors Jean-Baptiste, il annonce Jésus-Christ. Et à quelque part, c'est l'idéal d'aller dans le désert pour annoncer la venue de Jésus. Parce que Jésus va se venir non pas en tant qu'être glorieux, que tout le monde va admirer depuis le moment de sa naissance, mais va l'admirer progressivement. On va le découvrir à quelque part. Jésus va se révéler progressivement au monde, d'abord à ses disciples. Et ce matin, je vais vous parler de l'appel des disciples, l'appel des premiers disciples, les premiers que Jésus a appelés pour s'engager dans son ministère. Alors, il faut savoir que Jean-Baptiste, pour revenir à lui, quand il est allé au Jourdain, il a choisi le Jourdain parce qu'il y avait de l'eau, il y avait beaucoup d'eau, et il veut appeler beaucoup de personnes à la repentance. Et ce n'est pas juste quelques petites aspersions qu'il va donner, c'est se plonger complètement dans l'eau, passer une transformation de vie à laquelle il appelle les gens, et beaucoup de gens. Donc, on va là où il y a de l'eau, donc on va au Jourdain pour le faire. Et il va probablement au Jourdain à la hauteur de Jéricho. Et ensuite, il va continuer son ministère et remonter progressivement jusqu'au nord du pays, jusqu'en Galilée, jusqu'au lac de Galilée. Et puis ensuite, il va redescendre. Enfin, il sillonne un tout petit peu cette vallée du Jourdain pour être certain d'atteindre le plus de personnes possible. Et probablement après 6 mois, c'est Jésus-Christ qui vient vers lui et qui veut se faire baptiser. Jean-Baptiste, non, mais ce n'est pas toi qui dois te faire baptiser. Tu es pur, tu es parfait. Mais Jésus insiste, il dira, tu comprendras plus tard. Vous comprendrez, Jésus dit, vous comprendrez plus tard. Et c'est bien ici un élément clé, vous comprendrez plus tard. Parfois, on ne comprend pas tout de suite les choses, mais elles vont venir progressivement. Elles vont progressivement avec d'autres éléments qui nous sont apportés, qui nous sont dits, la révélation, par la méditation. Enfin, il y a une révélation qui se fait de plus en plus claire. Donc Jésus dit à Jean-Baptiste, tu comprendras plus tard. Et ensuite Jésus se fait baptiser, et dès qu'il se fait baptiser, le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend sous une forme corporelle, comme une colombe, et du ciel il y a une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors là Jean-Baptiste, qui savait quel était son ministère, alors il ne s'attendait quand même pas à ça. Le ciel qui s'ouvre, vous avez déjà vu le ciel s'ouvrir? Vous regardez pour les éclipses, etc. Mais est-ce que le ciel s'ouvre? Est-ce qu'il y a une voix qui, audible qui se manifeste et qui dit ceci? Tu es mon fils bien-aimé. Et à partir de là, Jésus va s'éloigner. Il va partir dans le désert pendant 40 jours pour être tenté. On a de la peine à comprendre, mais c'est comme ça souvent avec Jésus. On ne comprend pas tout. Il faudra revenir. Il faudra que je revienne un jour pour vous parler des tentations de Jésus. Enfin bref. Donc Jésus est tenté dans le désert pendant 40 jours, et après il se révèle, et il se révèle au nord du pays. Jésus, pour la première fois, va se manifester, et il va appeler ses disciples. Alors je vais lire quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Il nous est dit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Donc Jean-Baptiste a tellement de succès que les pharisiens, les sacrificateurs, qui avaient l'occasion de le voir depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho, maintenant Jean-Baptiste a encore plus d'audience. Donc tout à coup, on va les envoyer, des émissaires, on va les envoyer de Jérusalem jusqu'au nord du pays pour s'informer, après tout, toi, qui es-tu? Qu'est-ce qui fait que tu aies autant de succès? Mais qu'est-ce que tu fais? Il confessa, sans le nier, il confessa, moi, je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent, mais alors, qui es-tu? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu prophète? Il répondit, non. Mais il lui dira alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Donc rendez droit le chemin, c'est-à-dire repentez-vous de vos péchés. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est-à-dire au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu, j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Donc là, de manière tout à fait surprenante, les pharisiens qui étaient venus voir Jean-Baptiste vont rencontrer Jésus. Jean-Baptiste dit, mais il est là. Jésus, il est là. Non seulement il dit, il est là, mais c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors ça, c'est quand même une annonce incroyable que le dire aux émissaires qui sont là. Bon, qu'est-ce qui se passe après ? Verset 35, le jour suivant, troisième jour, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu ? » Et il leur dit, « Venez et vous verrez. » Voilà l'appel des premiers disciples. Alors, il y a les choses qui sont dites dans le texte et les choses qui ne sont pas dites. Les choses qui ne sont pas dites, c'est les pharisiens. Et les pharisiens réagissent comment ? Ils viennent d'apprendre que Jésus est l'agneau de Dieu. Ils sont impressionnés par Jean-Baptiste. Ils disent « Est-ce un prophète extraordinaire, tout ce que tu dis ?» Et voilà qu'au moment où Jean-Baptiste pointe vers Jésus, ça semble ne pas les laisser sans différents. Ils vont retourner à Jérusalem pour donner rapport aux responsables qui se trouvent là-bas. Et puis les deux disciples qui sont là, ils ont entendu Jean-Baptiste dire que Jésus est l'agneau de Dieu. Et puis le lendemain, Jésus passait. Enfin, le texte grec dit littéralement, il était en train de partir. Donc Jésus était en train de partir. Et Jean-Baptiste dit, mais allez-vous, les deux disciples. Mais bougez-vous, remuez-vous, ne restez pas plantés ici, Jésus va partir, faites quelque chose. Parce qu'il faut dire que Jean-Baptiste, il avait aussi quelques disciples. Des gens qui étaient venus se faire baptiser, mais après qui étaient émerveillés par Jean-Baptiste et qui voulaient encore l'entendre. Sans doute que Jean-Baptiste se répétait beaucoup, repentance, 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 repentance. Bon, ben voilà, enfin, c'est quand même important d'entendre repentance. Et puis, ils entendent que le Messie va venir. Donc, il y a des disciples qui sont là, et parmi eux, il y a deux disciples. Alors, ces deux disciples sont nommés. L'un d'entre eux est André, et le deuxième n'est pas nommé, mais c'est Jean, c'est-à-dire c'est l'auteur de l'Évangile. Et Jean, d'une manière générale, raconte tout ce qu'il a vu, mais il ne se nomme jamais par humilité. Alors, des fois, on peut voir qu'il est là parce qu'on dit que c'est le disciple bien-aimé, etc. Mais il y a André et Jean, deux disciples. Alors c'est intéressant, pourquoi est-ce que André et Jean étaient disciples de Jean-Baptiste ? Eh bien sans doute que dans leur cœur brûlait un désir de suivre Dieu, d'écouter Dieu, et voilà qu'il y a un prophète, un Jean-Baptiste, on veut l'écouter, on veut le suivre, etc., on veut l'entendre, et ils viennent là. Puis ils diraient, mais alors les autres disciples ? André, Jacques et les autres, ils étaient où ? Ils n'étaient pas disciples de Jean-Baptiste ? Ben, c'est intéressant que André et Jean, ils ont deux frères, chacun a un frère, qui est plus âgé que eux. André, il a son frère plus âgé, c'est Pierre, et Jean, il a son frère qui est plus âgé, c'est Jean. Mais ce n'est pas les vieux ou les aînés qui sont allés au bord du Jourdain, c'est les jeunes. Alors, bon, on ne dit pas pourquoi. Mais peut-être que quand vous êtes l'aîné, vous avez des responsabilités, vous êtes responsable du petit domaine de pêche, où il faut voilà, encore organiser les ouvriers, et puis s'absenter comme ça pendant quelques semaines, voire quelques mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui sont encore jeunes, ils sont étudiants, bon, après tout, vous pouvez prendre un temps sabbatique, vous pouvez faire le tour du monde, mais ceux qui sont déjà engagés dans la vie, qui ont des responsabilités, il ne faut pas quitter votre poste parce que vous risquez de le perdre. Vous voyez, il y a cet aspect-là, ce sont deux jeunes qui sont appelés, et c'est intéressant que Dieu, quand il appelle pas toujours les aînés, il appelle parfois ceux qui sont plus jeunes. Ici, il appelle Jean et André, et eux, quand ils entendent que Jésus est l'agneau de Dieu, qu'il est en train de partir, eh bien, alors tout de suite, ils veulent le suivre. Ben oui, il ne faut pas le lâcher, celui-là. Et ils suivent Jésus. Jésus se retourne et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, où demeures-tu? C'est quoi ton adresse? Où demeures-tu? On aimerait savoir où tu es, comme ça on pourra faire nos valises, venir s'installer ailleurs, être avec toi. On veut entendre ton enseignement, parce que c'est toi qu'on veut écouter. Jean-Baptiste nous a encouragé de te suivre. On veut te suivre, on veut t'entendre. Où demeures-tu? Et Jésus dit, venez et vous verrez. Il n'y a pas d'adresse fixe. Venez et vous verrez. Il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus au quotidien, jour après jour. Voilà. Et Jésus, il se déplace. Il n'a pas de domicile fixe. Ce n'est pas très confortable de le suivre. Mais c'est en suivant Jésus qu'ils verront. Ça veut dire aussi qu'ils devront obéir, parce que simplement prendre des notes, etc., observer, ce n'est pas suivre. Ce n'est pas ça, suivre Jésus. C'est s'engager, laisser les choses. Laissez ce qui vous a apporté des choses importantes. Jean-Baptiste vous a enrichi. Non, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller partir découvrir celui qui est l'agneau de Dieu. Venez et vous verrez. Verset 39. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc c'est en fin de journée que cela se passe. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. » Il le conduisait vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit Pierre. » Donc André suit Jésus, « Ah, je suis Jésus, je suis avec lui, on est en fin de journée, et voilà qu'il quitte Jésus. » Il ne reste pas avec lui, il s'absente un moment. Pourquoi est-ce qu'il s'absente? Pour aller trouver son frère et lui parler de Jésus. C'est ça, suivre Jésus. Ce n'est pas toujours être avec lui, mais c'est d'aller vers les autres pour que les autres puissent aussi profiter de la personne de Jésus. Puis voilà, c'est le grand frère, il faut quand même lui parler de ça. Et donc Pierre arrive, et quand Pierre arrive, on ne dit pas ce que Pierre voit, mais on dit ce que Jésus voit. Jésus le vit et lui dit, mais je vois toi, mais oui, toi, je vois ton avenir, je vois qui tu es. Tu vas être Pierre. Tu vas être le rocher. À quelque part, tu vas être un petit peu la personne qui va être le leader, le mobilisateur des disciples qui sont là. Tu es plus âgé, tu es l'aîné, etc. Tu te gênes pas pour t'exprimer. Voilà, il faut quelqu'un comme toi pour, à quelque part, être, non pas à la tête, mais quand même parmi le groupe ou parfois l'organiser le groupe. Et donc Jésus va appeler, là il en a appelé trois, mais il va appeler quelques autres disciples, assez rapidement, non pas les 12, mais probablement 5, peut-être 6, et il va rester avec ces 5 ou 6 disciples pendant environ une année. Jésus va commencer par s'occuper d'un plus petit groupe. Alors, petit groupe, c'est quoi un petit groupe? 2, 3 personnes, c'est un peu petit, 2, 3 personnes. 12, 13, c'est un peu grand. 6, c'est l'idéal. 5, c'est l'idéal. Parce qu'avec 5 personnes, les liens se tissent, les gens apprennent à se connaître, à se comprendre, à discuter. Ça crée une unité. Et après, on pourra toujours élargir le groupe à d'autres personnes. Et effectivement, Jésus va appeler après les autres disciples. Ils seront au nombre de 12. Et une année plus tard, ils vont en appeler d'autres. Ils seront 70. Le groupe va s'élargir. Mais au début, il y a quelques-uns qui sont appelés. Et là, il est question de André, de Pierre, de Jean. Tout de suite, Pierre est nommé. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais à quelque part, Jésus discernant lui ce qui va lui arriver et pourquoi il est appelé. Et Jésus, quand il regarde, quand il nous regarde, il nous voit. Il voit juste si on a des lunettes, si on est bien habillé, il nous voit. Il voit qui on est. Il voit qui nous sommes au fond de nous-mêmes. Vous êtes qui ? Vous regardez des fois le dimanche dans le miroir. Bon, ben, ça c'est superficiel. Mais vous êtes qui ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur ? Et Jésus voit parfaitement ce qu'il y a dans le fond du cœur. On reviendra sur ce point dans un instant. Verset 42. Le lendemain, donc on est le quatrième jour, il voulut se rendre en Galilée. Il trouva Philippe et Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Et Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, le quatrième à être appelé, c'est Philippe. Alors, pourquoi est-ce que Jésus appelle Philippe ? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, qu'il est de la même ville ou du village que André et Pierre de Bethsaïda, il vient de là. Bon, ben voilà, peut-être que Philippe avait entendu aussi quelque chose sur Jésus, parce qu'on imagine que Jean et André et Pierre discutaient le soir, etc. Peut-être d'autres personnes étaient informées, mais voilà que Philippe est aussi à quelque part alerté, et Jésus le voit et lui dit « Suis-moi ». Alors on ne sait pas tout, on aimerait bien savoir. Moi j'aimerais bien savoir, mais qu'est-ce qui s'est marqué ? Ça s'est passé, pourquoi est-ce que Philippe va suivre Jésus ? On n'en sait rien. Et pourquoi ça n'en sait rien ? Parce que Jean ne dit rien. Et probablement Jean ne dit rien parce que lui-même ne le sait pas. Jean nous rapporte les choses qu'il a entendues et qu'il a vues, mais bon, les choses qu'il n'a pas vues, qu'il n'a pas entendues, il ne peut pas les rapporter. Il ne fait pas des spéculations. Il reste sur ce qu'il a entendu. Enfin bref, Philippe est appelé. Immédiatement, Philippe suit Jésus. Et Philippe, comme André, va tout de suite trouver, non pas son frère, mais son copain. C'est Nathanaël qu'il trouve. Alors Nathanaël habite dans un autre village, un peu plus loin, à Cana de Galilée. C'est environ une journée de marche, voire deux journées de marche d'où il se trouve. Cana n'est pas très éloigné de Nazareth. Il va... un bout de chemin, enfin, Jésus monte à quelque part dans le haut de la Galilée et assez rapidement, Philippe voit Nathanaël et lui dit, ben voilà, on a trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, vous répondez quoi à ça ? Nathanaël dit quoi ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Donc, il est sceptique. Il dit, Jésus de Nazareth ? Non, mais attends. Nazareth, c'est une ville pourrie. C'est la ville juste à côté de la mienne. Cana, Nazareth, c'est juste à côté. Non, mais je connais ces gens. Ils sont pourris. Ils sont mauvais. Vous savez, souvent, il y a des rivalités entre les villages, etc. Voilà, on n'aime pas trop les autres, ils font concurrence. Parfois, c'est au niveau des villes. Quand le Lausanne Sport vient défier le Servette, il y a un petit peu des rivalités, etc. Peut-être moins si c'est une ville, si c'est Lugano, comme ça. Mais non, mais Lausanne, alors quand même, c'est trop près de Genève, il y a des rivalités comme ça. Et on trouve tout le temps des rivalités. Des rivalités, des fois, dans les familles, entre deux frères qui sont là. Des rivalités, parce qu'on se compare. Et donc Nathanaël, il est à quelque part pas très favorable envers les gens de Nazareth. Et on pourrait dire, non mais, vous savez, les préjugés. Vous avez des préjugés ? On a tous des préjugés. Les préjugés comme ça, et puis ils nous coupent des autres, ils nous empêchent de voir vraiment qui sont les gens. Remarquez que Nathanaël n'avait peut-être pas entièrement tort, parce que les gens de Nazareth sont pourris. Hein? Parce que quand Jésus va faire sa première prédication à Nazareth, on l'écoute, nous sortir de la synagogue, on veut le précipiter en bas la falaise pour le tuer. C'est quand même pas très sympa. Quelqu'un qu'ils connaissent, les gens de Nazareth connaissent Jésus. Il a grandi parmi eux et voilà qu'ils veulent le tuer tout de suite. Donc les gens de Nazareth, ils ne sont pas très, très ouverts. Et on peut comprendre un tout petit peu Nathanaël. Enfin bref, donc Nathanaël est sceptique quand Philippe lui dit cela. Et Philippe, qu'est-ce qu'il lui dit ? Viens et vois. Mais viens regarder par toi-même. Ce n'est pas simplement c'est pas mon témoignage qui compte, mais toi-même, viens regarder et tu verras. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Et à nouveau, c'est Jésus qui voit. C'est Jésus qui voit Nathanaël et qui lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Alors Nathanaël lui dit, « Quoi ? D'où me connais-tu ? » Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors, très intéressant comme récit, parce que dès que Nathanaël entend ça, Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Nathanaël change complètement d'avis quand il apprend que Jésus sait tout sur lui. Il l'a vu quand il était sous le figuier, au moment où Philippe l'appelait. Alors, le figuier, c'est un arbre qui est assez important, qui est souvent sous lequel on profite de se mettre pour être à l'ombre. Dans l'Écriture, souvent on parle du figuier d'un endroit qu'on utilise pour méditer la parole, pour être tranquille, etc. Et là, sous le figuier, vu de personne, à une certaine distance, Jésus savait exactement qu'il était là au moment où Philippe l'appelle. Et ça le convainc que Jésus, il est effectivement le Rabbi, le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Remarquez que dans ce récit, Nathanaël disait « Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ?» Il l'a dit à haute voix. Philippe l'a entendu. Mais Jésus, qui sait tout, il a aussi entendu, même s'il était à distance. Il a vu, il sait tout. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Écoute, Nathanaël, quand même, arrête avec tes préjugés. Il ne dit pas ça. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Alors ça, c'est étonnant, parce qu'on sait qu'on est tous pécheurs. Et voilà que Jésus donne un rapport totalement favorable envers Nathanaël en disant, voilà quelqu'un en quel il n'y a pas de fraude. Qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas avoir de fraude ? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de fraude ? En tout cas, Nathanaël, quand il voit que Jésus est un être vraiment différent, il croit tout de suite. C'est vraiment par l'incrédule. Oui, il avait des préjugés, parce qu'on a tous des préjugés, mais quand il découvre Jésus, qu'un tout petit aspect, qu'une parole de Jésus, déjà il croit. Déjà il fait une confession extraordinaire. Et Jésus continue et dit, Jésus répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » C'est rien ! Tu as juste eu cette parole, mais tu verras de plus grandes choses que celle-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Waouh ! Cette fois, ce n'est pas juste le ciel qui s'ouvre et une colombe qui descend, c'est le ciel qui s'ouvre et des anges qui montent et qui descendent. Mais c'est extraordinaire. Jésus dit, voilà ce que tu verras. Et si vous connaissez l'Écriture, vous dites, mais je regarde, mais quand ça s'est passé ? On ne nous dit jamais quand ça s'est passé. Ça ne s'est jamais passé. Mais pourquoi Jésus dit cette parole ? Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Ah, mais si vous êtes un peu juif, et Nathanaël, il est juif, il connaît les Écritures, bien sûr que dès qu'on parle d'anges qui montent et qui descendent, tout de suite, on pense à Jacob. À Jacob qui est, non pas l'Israélite sans fraude, qui est l'homme pervers, corrompu, méchant, qui trompe son père, qui est aveugle, lui ment, etc., pour voler la promesse qui revenait à son frère. Bon, au moins la bonne chose qu'il avait, Jacob, c'est qu'il voulait cette promesse, alors qu'Ésaü, ça ne l'intéressait pas. Mais après, la manière dont Jacob s'y est pris pour avoir cette promesse, c'est vraiment pas un exemple à suivre, vraiment pas. Jacob, il est plein de fraude. Nathanaël, il est sans fraude. Non, Jacob, quand il va revenir, eh bien, il va être transformé lorsque Dieu le rencontre. Il lutte avec lui, texte un peu difficile, mystérieux. Mais à ce moment-là, il reçoit un nouveau nom de Jacob. Il devient Israël. Et c'est intéressant ici que Jésus dit à Nathanaël, voici l'Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. À quelque part, c'est vrai que tous les Israélites sont descendants de Jacob, mais là, c'est pas tu vas être le descendant de Jacob, mais un Israélite sans fraude. Et là, au moment où la chose s'est passée, au moment où Jacob a rencontré, enfin, il est en train de quitter la terre promise et il dort la nuit à un endroit et il a cette vision. Le lendemain, il dit, là, ça, c'est l'endroit où Dieu est. Et il appelle maintenant cette ville, elle s'appelait Luz, cette ville, et maintenant il l'appelle Bethel, la maison de Dieu. Ah, ça, c'est la maison de Dieu. Dieu s'est manifesté à moi, je l'ai vu. Et ça l'a quand même transformé. Pas totalement, mais partiellement, puisqu'il dit, si je reviens de mon séjour en Mésopotamie, sain et sauf, alors tu seras mon Dieu. Oui, un petit peu, c'est toujours Jacob encore qui est un tout petit peu entre deux, mais il dit, à ce moment-là, je m'engagerai. Pas tout de suite, mais à ce moment-là, je m'engagerai. Donc, Nathanaël, quand il entend, pas seulement Nathanaël, mais les autres disciples, quand ils entendent qu'ils vont voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre, ça veut dire qu'ils verront la gloire de Dieu se manifester. Et quelle est la première manifestation de cette gloire de Dieu? Continuez à lire le chapitre. Non, vous devez passer au chapitre 2. Trois jours plus tard, on arrive à Cana et Jésus va effectuer son premier miracle. Le miracle où il a transformé de l'eau en vin. Alors là aussi, c'est un texte un peu mystérieux. Pourquoi transformer de l'eau en vin? Je veux dire, pour les gens qui sont la ligue anti-alcool, ils ont des problèmes avec ça. Mais enfin bref, Jésus transforme de l'eau en vin et pas juste quelques litres. C'est une baignoire, 600 litres qu'il a transformé. On parle des jarres qui sont là et tout ça. Et c'est un miracle extraordinaire. Qui est vu par qui? L'organisateur, il ne sait pas. Les mariés, on n'en sait rien. C'est un mariage, on n'en sait rien. Tout tourne autour de Jésus, de Marie et des disciples. Marie qui vient, qui dit à Jésus, sans doute parce que Marie fait partie de la famille, il y a un problème, donc elle va vers Jésus pour lui dire, mais fais quelque chose, ils n'ont pas de vin. Et Jésus l'accueille froidement. Femme, qu'a-t-il en toi et moi? Ce n'est pas tellement une manière de traiter sa mère, mais c'est une manière de dire, à quelque part, quand on est dans la nouvelle ère, dans la nouvelle période, les liens biologiques, familiaux, perdent de leur valeur. Ce n'est pas cela qui compte, mais c'est des nouveaux liens, les liens qui sont les liens de la foi. Et donc, Marie est présente, mais à la fin, quand le miracle est accompli, il est dit, chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que Jésus fit, il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc là, il y a d'un coup quelque chose qui s'est passé. Et c'est quoi ce qui s'est passé? C'est ils croient en Jésus. Ils ont vu et ils croient. Tous. Tous. La communauté. C'est l'Église qui commence à ce moment-là. La nouvelle communauté. Et Jésus crée cette nouvelle communauté lors d'un mariage. Alors, la fête du mariage, c'est une fête particulière. La fête du mariage, c'est une fête où il y a une alliance entre un homme et une femme. Une alliance qui perdure toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'est une alliance qui est forte. Le lien, en fait, du mariage est plus fort que le lien qu'on a avec nos enfants ou avec nos parents. Parce que le lien qu'on a avec nos enfants, bon, les enfants, voilà, on les a engendrés, mais je ne les ai pas choisis. Je n'ai pas choisi un garçon, une fille, etc. C'est Dieu qui me les donne. Les enfants, ce n'est pas eux qui choisissent les parents. C'est Dieu qui les donne. Il y a une dimension naturelle, biologique. Mais avec le mariage, c'est différent, parce qu'il y a un choix qui est fait. On choisit. Et c'est au moment où on choisit de part et d'autre qu'il y a l'alliance qui est faite. Et Jésus va créer son premier miracle qui va conduire à la foi des disciples lors d'un mariage. Parce que ça identifie, ça représente clairement ce que c'est que la foi. C'est un engagement que Dieu fait envers nous et que nous faisons envers Dieu. C'est Jésus qui appelle et c'est l'homme qui répond à l'appel. Les deux éléments sont là et sont indispensables et inséparables. Alors voilà, on pourrait s'arrêter là parce que tout avait commencé avec cette parole « Viens et vois, viens et vois ». Si tu t'attaches à Jésus, si tu es prêt à quitter ton confort, tous tes aises, ton argent, tout petit peu, même peut-être beaucoup, enfin voilà, tout ce qui te retient trop sur terre, si tu donnes tout à Jésus, viens et vois, tu verras, tes yeux vont s'ouvrir et tu comprendras celui qui était le Créateur et qui s'est incarné. Bien sûr que la révélation de Jésus, elle est progressive. On n'est que le premier des signes ici, premier des miracles. Jean nous parle de signes, séméion plutôt que miracle, parce que derrière chaque miracle, il y a un sens, il y a une pédagogie qui se dégage. Et cette pédagogie, elle prend parfois du temps à être comprise. Les signes qui sont là, ils prennent parfois du temps à être compris. Mais peu importe, viens et vois. Continue à venir, continue à suivre. Plus tu vas suivre Jésus, plus la lumière va venir. Quand vous regardez le soleil lors d'une éclipse, on vous dit mettre des lunettes, sinon vous allez être aveugle. Non, pour Jésus, regardez davantage à Jésus. Et plus vous le verrez, plus vous aurez la vie, plus vous grandirez. Et il y a des choses qui sont faciles à faire, à comprendre avec Jésus. Vous êtes paralysé, puis d'un coup vous êtes guéri, c'est Jésus, ouais, c'est mon Seigneur. Facile. Ouais, mais vous croyez, vous êtes persécuté, c'est plus difficile de croire. Il y a des temps parfois plus faciles et parfois plus difficiles. Et dans l'Évangile, plus on progresse dans l'Évangile, dans le ministère de Jésus, qui s'étend quand même sur 3 ans, plus les situations vont se diversifier, où on verra différents personnages, dont certains s'engagent très vite. On a un Zachée qui est prêt à tout vendre, à corriger toutes ses fautes, à vendre la moitié de ses biens pour les pauvres. Et puis, on en a d'autres qui sont plus réservés. Je pense juste à ce paralytique qui est à Jérusalem. C'est la fin de la première année. Il est à Jérusalem. Il est paralysé depuis 38 ans. Il est au bord d'une piscine en train d'attendre qu'un ange descende. Et voilà, secoue un petit peu l'eau. À nouveau, on attend qu'un ange descende. Enfin, bref. Il y a toutes sortes de liens, de connexions. Il attend ceci. Et Jésus arrive vers l'homme et il dit « Veux-tu être guéri ?» Je me dis quand même, il y a des questions stupides. Hein, parce que, vous savez, des fois, un temps de discussion, puis quelqu'un, j'ai une question. Et puis vraiment, il est complètement à côté de la plaque. C'est vraiment stupide. Hein. C'était stupide. Conférence intéressante, et dites j'ai une question, c'est quand la prochaine fois qu'on va nettoyer la salle? Non, non, mais c'est déplacé, ça n'a rien à faire avec ça. Mais quand vous avez un paralytique depuis 38 ans et que vous lui dites « Veux-tu être guéri ?» Vous diriez quoi ?« Mais bien sûr !» Mais pas besoin de réfléchir longtemps. « Mais bien sûr que je vais être guéri !» Et l'homme dit « J'ai personne pour me mettre dans l'eau. » Une excuse. Elle est légitime, mais une excuse. Il y a toutes sortes d'excuses. Les gens, ils sont très doués quand on en vient aux excuses pour ne pas suivre Jésus. Et ça varie tout le temps. Alors lui, il dit, j'ai personne pour me mettre dans l'eau. Mais est-ce qu'il voulait vraiment être guéri? Et cet homme, au chapitre 5 dans Jean, Jésus le guérit le dimanche. Pas le dimanche, le sabbat, le samedi. Il le guérit le sabbat. Et Jésus lui dit de porter son lit sur lequel il était couché depuis 38 ans. Tu prends là, déménage, fais la place pour les autres qui vont venir. Tu n'auras plus jamais besoin de venir ici. Et les Juifs, au lieu de se réjouir de ça, disent, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de porter ton lit. C'est le sabbat. Qu'est-ce qu'ils regardent? Il n'a pas le droit de porter ça. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Je ne sais pas. Celui qui m'a dit, qui m'a guéri, il m'a dit de prendre mon lit. Mais qui est-il? Moi, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il ne le sait pas. Et Jésus va le rencontrer juste après au temple et il se révèle à lui. Et que fait cet homme? Il va tout de suite témoigner. Mais ce n'est pas un beau témoignage. C'est un lâche. Pourquoi est-ce qu'il va dire que c'est Jésus? Pour se dédouaner. Vous voulez me critiquer, mais allez critiquer Jésus. Il n'est pas prêt de se mouiller. Il n'est pas prêt de souffrir pour Jésus. Donc voilà un exemple négatif de quelqu'un qui voit Jésus et pourtant qui ne voulait pas vraiment voir. Et ne s'est pas engagé. Bref, j'ai avancé pour terminer au chapitre 21, donc je vais avancer un peu plus vite. Donc les disciples, ils ont entendu toutes sortes de choses, des choses faciles, des choses difficiles. Et il y a des choses qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment eu de la peine à comprendre. Comment le Dieu tout-puissant, créateur, qui vient sur terre, qui est plein d'amour, qui aide les hommes, qui les guérit, etc., comment cet homme va-t-il mourir sur la croix, être rejeté par tous? Le scandale de la croix. Alors là, vraiment, non, je ne crois pas. On ne peut pas croire ça. Et les disciples n'ont pas cru les paroles de Jésus que Jésus a répétées pendant 6 mois, plusieurs fois, clairement, sans langage symbolique, directement. Et ils n'ont pas cru. Et ils n'ont cru qu'après la résurrection. Et après la résurrection, tout à coup, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont dit, ça y est, on comprend. Mais pourquoi est-ce qu'on était aussi incrédule que ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cru les paroles de Jésus qui étaient là? Parce qu'à quelque part, quelque chose nous empêchait. Ce qui nous empêchait, c'était nos préjugés, notre a priori sur ce que la vie de chrétien, de disciple devait être. Et parfois, les chrétiens qui traversent des difficultés, ils ont aussi, d'un coup, ils sont confrontés à cette situation. Mais pourquoi j'ai cette difficulté quand Dieu est bon? Il m'a béni jusqu'aujourd'hui et maintenant j'ai une difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, la foi, elle flanche. Alors que les épreuves sont là pour stimuler notre foi, pour fortifier notre foi, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne le voit pas toujours, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, dernier chapitre, on a l'histoire de Jésus qui se retrouve au nord de la Galilée avec avec quelques disciples qui sont là. Et Jésus va mandater Pierre, lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je t'aime. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Donc, l'appel que Jésus avait adressé à Pierre tout au début, voilà que cet appel va être renouvelé tout à la fin. Et cette fois, il y a une condition qui est posée. Est-ce que tu m'aimes? Mais Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Et maintenant, 3 fois, Jésus lui dit, mais est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, mais oui, je t'aime. Je suis pécheur, je me suis planté, je me suis comporté de manière abominable, exécrable, mais je t'aime quand même. Et Jésus ne lui retire pas sa confiance. Il lui dit, paie mes brebis. Ce qui est important pour ceux qui veulent paître les brebis, c'est qu'ils aiment le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, eh bien alors, tout change. On est apte au ministère. Et Jésus lui dit après, j'ai encore une chose à te dire, paie mes brebis, d'accord, mais ça c'est une chose. Il y a l'autre chose que je vais t'apprendre. Il lui attache sa main avec sa ceinture et lui dit, c'est comme ça que tu vas finir. Quelqu'un va te mener là où tu ne voudras pas aller. Et Jean nous dit, Jésus dit cela pour dire de quelle mort Pierre allait mourir. Et Pierre est mort au martyr à Rome lorsqu'il a été crucifié. Et donc Pierre est là, et Jésus lui dit ceci, et Pierre se retourne et voit Jean qui est derrière lui, qui les suit. Et Pierre dit, et puis lui, Jean, le petit chéri, le disciple bien-aimé, celui à qui tu fais des confidences à différents moments, lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Il va s'ouvrir aussi, lui. Est-ce qu'il est épargné? Jésus répond à Pierre. Que t'importe, toi, suis-moi. T'en cas pas aux autres. Le parcours de chacun est différent. Il y a ton parcours. Il est entre les mains de Dieu. Il a prévu pour chacun des bonnes œuvres pour qu'on puisse les accomplir. Ne regarde pas autour de toi. Toi, suis Jésus. Que t'importe les autres. Voilà. C'est comme ça que l'Église a commencé. C'est comme ça que l'Église s'est répandue dans le monde par des gens, des individus qui ont été appelés, différents les uns des autres. Certains ont vu Jésus, d'autres ne l'ont pas vu. Mais le ciel est ouvert. Et il y aura la manifestation de Dieu qui va arriver dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui, de manière différente, mais de manière réelle. Et les chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, tout à coup, ils peuvent dire, ça y est, mais oui, Dieu est intervenu, il m'a donné la foi, une vie nouvelle. Et maintenant, nous sommes appelés à vivre ensemble, à nous encourager les uns les autres, à marcher tous les jours pour connaître de mieux en mieux la personne du Christ. Et des fois, j'ai envie de demander à quelqu'un que je rencontre après une semaine, et je lui dis, ça fait une semaine que je ne t'ai pas vu. Comment as-tu grandi pendant cette semaine en Jésus? Qu'est-ce que tu as appris de neuf sur Dieu pendant cette semaine? Attends, on s'est vu hier, qu'est-ce que tu as appris de neuf depuis hier? Est-ce qu'on y a cette soif, ce désir de connaître encore plus, de connaître encore plus, de connaître encore plus? Pour grandir avec le Seigneur. Et Jean, qui a eu le privilège, voilà, enfin, c'était son destin, de ne pas mourir comme martyr, Jean, qui a vécu plus longtemps que tous les autres, eh bien, il a eu un avantage, c'est qu'il a eu plus de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Et Jean écrit l'évangile, 4e évangile, avec du recul. Avec du recul, il comprend mieux certaines choses. Ah oui, je me souviens, c'est vrai, quand il y a la multiplication des pains là-bas, en Galilée, je sais que Matthieu, Marc et Luc en parlent, mais oui, il y avait cette multiplication des pains, mais le lendemain, Jésus avait donné une explication sur les pains, où il avait dit qu'il est le pain de vie, et donne le texte qu'on ne trouvait pas dans les autres. Et donc, dans l'évangile de Jean, Jean pointe sur différentes choses que les autres disciples ou les autres évangiles ne mentionnent pas. Je dirais que c'est comme ça pour nous aussi. C'est-à-dire, quand on progresse dans la foi, dans la connaissance de Jésus, il y a une lumière après une autre qui s'allume. Tu veux connaître Jésus? Viens et suis-moi, dit Jésus. Amen.